RMC, entre les poteaux, Pierre Amiche.
Bonjour à tous, les barrages ont livré leur vérité. Deux matchs, deux ambiances, mille questions. D'un côté, le Racing qui a renversé le Stade français à Jambouin, mais sans montrer grand-chose et sans se rassurer. Les franciliens ont-ils la moindre chance d'inquiéter le grand Stade toulousain vendredi? Et que penser d'une équipe qui est en demi-finale sans donner l'impression de maîtriser quoi que ce soit? De l'autre, l'UBB s'est imposé sur la pelouse de Lyon. Une victoire étrange qui doit beaucoup à son ailier supersonique. Madoche, Tamboué, Bordeaux, dominé, bousculé, mené, mais qualifié. Lyon doit-il avoir des regrets et les Bordelais peuvent-ils avoir des espoirs? Et puis les poteaux se pencheront aussi sur le sort des vaincus, et notamment sur le cas de Gonzalo Quesada, le technicien argentin très ému après le match et qui soulève une vraie question. Le rugby est-il devenu un sport comme les autres, où les entraîneurs ne font que passer? En moins d'un an, 9 staffs sur 14 vont ou ont changé? Est-ce juste une question de cycle ou est-ce un vrai problème d'identité? Pour revenir sur tout ça, vous en avez l'habitude, une table d'experts forcément. Le premier, c'est le finisher idéal, décisif mais pas pénible et qui, comme Madoche Tamboué, est de retour pour les phases finales plan badin. Bonjour Julien Landry.
Salut Pierre, salut à tous.
Lui est comme Maxime Lucu, un physique un peu étrange, on doute parfois de son niveau et on regrette parce qu'il est toujours au rendez-vous, dans les grands rendez-vous justement. Nicolas Paul Orsi, bonjour.
Salut les gars, salut à tous.
Ça, c'est... Tu t'es pas rasé la tête?
Ah non, pas du tout. Bon, pas encore. Je garde mes cheveux encore.
Enfin, le dernier.
Pour longtemps.
Bah, c'est ça la question. Enfin, le dernier poteau est le seul qui n'est. Enfin, lui non plus, en fait, n'est pas titulaire. À la base, on devait avoir Manu Massicard. Mais on a préféré Léo Fort. Il a moins l'habitude des strass, des paillettes, de Charvet, de Templier, Cessu. C'est un peu le déclassement quand même. Bonjour Léo Fort.
Merci, quel accueil. J'aime bien la besogne, moi.
Oui, bah, on est quand même l'équipe B, il faut le souligner. On
n'est pas toujours titulaire.
C'est les finishers qui vous présentent ce podcast aujourd'hui. Depuis dimanche, on connaît les 4 équipes en lice pour le titre de champion de France.
L'engagement, déjà, on le voit dans cette rencontre après 4 minutes et 40 secondes de jeu 0-0. Mais ça s'est déjà un peu chauffé. Carton rouge, oh, c'est terrible. D'entrée de jeu, le coup terrible pour les soldats roses du Stade français. Avec la sanction immédiate, le premier essai de la partie marqué par les joueurs du Racing 92. Juan Imhoff sur la récupération. L'essai du Racing 92. Vous allez entendre dans 2 secondes même les cloches de Notre-Dame ici retentir à Jambouin. Et c'est terminé pour le Stade français, éliminé en barrage. Ça continue, ça se poursuit. L'aventure en top 14 pour le Racing 92.
Qui pourra gagner la belle cette rencontre ce soir à Gerland, dernier barrage de cette saison de top 14? Le coup de sifflet donné par l'arbitre de la rencontre. C'est parti, ça peut aller d'un côté et de l'autre. Mamadou Diaby qui met les cannes. Attention, il met les cannes. Est-ce qu'il va aller à l'essai? C'est envoyé. Oh oui, l'essai bordelais. Et c'est somptueux. On a manqué trop de plaquages du côté lyonnais. C'est Jalibert qui percute, on est sur les 40 mètres de la ligne lyonnaise. Tamboué qui met les cannes. Et qui va au bout, oui. Est-ce qu'il va aplatir Tamboué? Et c'est validé. Tamboué a remis les cannes. Il était côté gauche, il avait fait un festival tout à l'heure.
C'est terminé.
La qualification de l'UBB, l'explosion de joie du bon bord de l'Aubéglet qui rentre sur la pelouse de Gernolet. Le gros coup, l'énorme coup réalisé par les joueurs de l'UBB qui viennent s'imposer ici à Gerland. 32-25, victoire donc de l'Union Bordeaux-Bègles.
Messieurs, on va commencer avec le dernier qualifié pour les demi-finales, le 6e du top 14 et miraculé dimanche soir Bordeaux. Juste avant de parler du match en lui-même, un mot rapide sur l'absence d'arbitrage vidéo pour cette rencontre suite à une panne du camion régie du diffuseur. Déjà, simple question, par exemple Nicolas, le match, est-ce qu'il a été meilleur justement parce qu'il n'y avait pas de TMO?
Ah ouais, franchement, mais moi je me suis régalé. Alors ça fait un peu vieux grincheux de dire ça, mais franchement, oui, il y a des essais qui sont litigieux. Le premier de Jalibert, celui de Diaby, il y a peut-être 3 essais qui auraient été refusés. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir un arbitre qui prenne sa responsabilité sur le terrain, d'avoir de vraies décisions de terrain, d'avoir des arbitres dans le but qui sont là pour juger et qui du coup récompensent un petit peu les initiatives aussi. Alors, bien sûr que quand t'es lyonnais ce matin, tu peux peut-être avoir de la frustration parce que tu peux te dire qu'avec la vidéo, tu serais qualifié pour les demi-finales. Mais je pense qu'au final, même sans la vidéo, c'est quand même l'équipe la plus méritante qui s'est imposée, en tout cas qui a eu des initiatives sur la fin de match. Et moi, en tout cas, je me suis régalé et on a vu un corps arbitral qui n'hésitait pas. Un match du coup avec du rythme, sans pause. T'attends pas 4 minutes devant ton écran d'attendre tous les angles de caméra. Je suis pas anti-vidéo du tout, mais c'est vrai que là, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça sympa hier soir.
Même question, Léo, Julien, est-ce que comme Nicolas, vous êtes régalé?
Plus dur quand même. Je trouve. Je comprends effectivement, ça donne du rythme. On n'a pas ces cassures et des fois c'était ces appels excessifs à la vidéo. Ok. Après, ouais, il y a quand même 3 essais qui sont pas forcément refusés, mais sont au moins litigieux, et notamment le premier, où je pense que même il y a deux fautes, je pense qu'il y a une reprise d'appui aussi sur son bras droit. Donc il y a un problème d'équité qui se pose, c'est-à-dire qu'on a un outil qui existe, pour des raisons techniques qui me semblent un peu irréelles, mais bon, voilà, on n'y a pas accès. Et effectivement, les Bordelais, ils n'ont pas volé leur victoire. Dire que c'est le plus méritant qui a gagné, je suis pas tout à fait d'accord non plus.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ceux qui ont eu des intentions dans les 15 dernières minutes et qui sont allés dans l'embut, bah, au final, ils ont gagné. Les Lyonnais, ils n'ont pas été si dangereux que ça à la fin du match. C'est ça ce que je veux te dire.
Non, Léo, je suis d'accord, alors... mais il peut y avoir un écart plus grand à la mi-temps aussi, parce que les Lyonnais, moi, je les ai trouvés globalement dominateurs, notamment dans l'impact et les collisions, mais. Non, je suis quand même gêné qu'on ait un outil qui a quand même fait ses preuves, qui n'est pas infaillible, qui n'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. Il y a, même avec la vidéo, il y a toujours des décisions, on est d'accord, pas d'accord. Mais n'empêche qu'il y a, il y a au moins une situation où il n'y a clairement pas essai, je pense, sur Jalibert. Enfin, je sais pas, à moins que vous ne soyez pas d'accord.
Oh ouais, non, mais complètement d'accord.
Julien, pour moi, équité, il y a pas essai. Pas équité. Et...
Non, mais moi, ça me gêne. À partir du moment où nous, devant notre télé, on a accès aux ralentis, que et dans le stade, il y a les ralentis qui sont diffusés parfois sur les écrans géants et que l'arbitre ne puisse pas les utiliser. Alors que on nous explique qu'hier, il y a certains axes de caméra que tu puisses pas utiliser. Soit, mais c'est quand même fou que tu te dises... Alors oui, moi, je comprends cette histoire de rythme. Effectivement, le TMO appelle pas. Il me semble que sur cette image-là, il y a peut-être un plaquage impôt à vérifier. Alors clairement, ça, on peut s'en dispenser. Je suis d'accord pour ça, mais sur les situations d'essai, alors parfois c'est bien jugé sur l'essai d'Arnold où Tamboué vient le plaquer et l'arbitre juste estime qu'en tout cas avec son arbitre assistant qu'il n'y a pas touché au sol, il n'y a pas essai, donc ça c'est très bien et je valide pour le coup parfois aussi que les arbitres prennent des décisions et ça me va très bien, mais parfois t'es battu par la vitesse du jeu et les arbitres qui sont pas en mesure de juger s'il y a essai ou pas essai, et clairement l'essai de Jalibert, tu vois le ballon qui roule, il y a la reprise d'appui et moi ça me gêne à partir du moment où nous on a accès à des images, je comprends pas pourquoi l'arbitre ne puisse pas avoir accès hier à un minimum d'images, surtout que d'après ce que j'ai compris à la mi-temps, Canal leur a dit que c'était réparé et ouais, que la Ligue a décidé que pour l'équité il fallait pas bien changer sûr. Entre la première et la deuxième mi-temps. Moi je trouve ça fou qu'en 2023 on soit quand même bloqué pour des orages qui ont eu à 16h à Lyon et qu'à 21h on soit pas capable d'avoir des images. Je trouve ça complètement fou et surtout voilà, moi je reviens, je comprends que des fois il y a des problèmes, mais je comprends pas pourquoi hier messieurs les arbitres ils ont pas eu accès aux trois ralentis de Canal+ que nous on a pu voir, que dans les écrans géants ils ont vu, ouais. Et je pense qu'ils auraient pu se faire un avis sur ces peu d'images que nous on voyait au ralenti.
L'explication elle tient peut-être au fait que il n'y avait pas d'arbitre TMO avec la régie habituelle indépendante pour l'arbitre et que il voulait pas prendre le risque peut-être de se retrouver dans la situation comme sur le Six Nations ou de certains matchs internationaux où c'est le réalisateur qui arbitre en fait en fonction des angles.
Oui, mais je trouve qu'il faut s'adapter, tu vois. Je pense qu'il faut s'adapter. Le TMO, il sait que hier soir ils seront pas infaillibles et que sur certains plans, ils donnent la primeur à ce qu'ils ont pensé sur le terrain, parce que souvent l'arbitre dit est-ce que vous avez une image qui contredit ce que je peux penser sur le terrain. Et hier, s'il n'y a pas ça, tu valides les essais, et que l'essai de Jalibert, s'il ne voit pas. Voilà, tu vois, c'est bien la vidéo, mais des fois, on a poussé à l'extrême, je trouve, l'utilisation de la vidéo. Et je trouve qu'hier, ça reste quand même frustrant. Et je comprends les Lyonnais qui puissent être frustrés, même si je pense qu'on en parlera. Expliquer la colère de Couillou pour les images vidéo et se mettre dans une colère, ça montre aussi la fébrilité de cette équipe-là. Mais ça participe
à le niveau de tension. Le niveau de tension.
Exactement. Quand même,
justement, le niveau de tension, il était sur le terrain. À la mi-temps, Lyon mène 17-8. Ils infligent même un 10-0 à Bordeaux. Le Loup gagne toutes les collisions. L'UBB n'existe pas en mêlée. Est-ce que vous vous attendiez à la pause un tel scénario après la pause, justement ? Est-ce que le deuxième acte, vous vous attendiez à ça ?
Les Lyonnais, ils nous ont quand même habitués. On en avait parlé la semaine dernière, que si les Lyonnais voulaient se qualifier, il fallait qu'ils trouvent un peu de la constance dans leur jeu. Et ce qu'ils nous avaient montré finalement au Stade Français, où ils sont menés 28-0 et ils reviennent à 31 partout, avec une mi-temps sans rien et une mi-temps de l'autre côté où ils font beaucoup, tu pouvais te dire qu'ils pouvaient faire aussi dans l'autre sens. Je trouve que le match d'hier, il résume parfaitement la saison des Lyonnais, quoi. Capable d'étincelles, comme sur l'essai de Tuisova. Alors, est-ce que c'est les Lyonnais ou c'est Tuisova qui fait l'étincelle? Je sais pas. Mais ils sont capables de coups d'éclat monstrueux, de marquer des essais sur des miettes. Mais par contre, ils ont des absences qui sont ingérables à ce niveau-là. Je trouve qu'il manque trop de leaders. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas assez de personnalité dans cette équipe-là pour remettre justement un peu l'équipe dans le sens. Tu vois, je reviens toujours à Montpellier, mais Montpellier est champion la saison dernière aussi parce que tu as un Guirado qui, dans les moments de doute, te dit « Les gars, on panique pas, quoi. Et je trouve qu'à Lyon, il leur manque un leader. Et je trouve qu'il manque de constance. Et clairement, hier soir, ça résume parfaitement la saison des Lyonnais. Capable d'éclat et capable de sombrer à tout moment. Et ils ont sombré au pire moment pour eux dans la saison.
Et puis, ça manque de bande touche. Ça manque de bande touche. Quand on voit le coaching de l'UBB, où tu fais rentrer ta deuxième première ligne avec Falatea, avec Ogré, avec Kolasvili, qui renverse tout. T'as Ken Douglas qui remplace Marek, qui est blessé. T'as Caleb Timou qui fait une super fin de saison. Voilà, quoi. T'as un banc de touche costaud du côté de Bordeaux. Et c'est ce qui retourne un peu le match. Et on a senti que Lyon, quand ils ont commencé à faire des rotations, ils ont jamais réussi à inverser la tendance. Tu parlais des collisions en première mi-temps. C'était un peu le jour et la nuit, quoi, pour les Bordelais. À partir du moment où ils ont fait ces changements devant, ils ont vraiment retourné les duels dans ces zones de collision et ça a inversé tout le match.
Léo, c'est pour toi le trou d'air lyonnais qui explique la victoire bordelaise ou Bordeaux allait se le gagner?
Mais tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'on s'y attendait à la mi-temps? Je ne sais pas si on s'y attendait, mais en tout cas, on savait que c'était possible parce qu'ils l'ont fait pas mal de fois déjà, ce scénario, les Lyonnais. Donc, je ne sais pas, il y a un coaching étonnant de Couillou qui est tout dans le match aussi.
Mais même globalement, il y a un coaching étonnant de Lyon globalement parce qu'on voit des joueurs qui sortent à la 45e, qui reviennent à la 65e. Ouais. Sans vraiment avoir d'explication ni d'impact, c'était un peu étrange. J'ai pas tout compris. Et en fait, je vous pose la question parce que j'étais certain à la
j'ai
pause.
J'ai du mal à comprendre comment on arrive là, en fait.
Ouais, mais t'es pas le seul. D'ailleurs, regardez, on va écouter Dylan Crétin qui comprend pas non plus le troisième ligne de Lyon. Comment le Loup a fait pour perdre ce match?
Un peu encore sous le choc, à essayer de comprendre comment on perd ce match. J'arrive pas encore à l'expliquer. Il va falloir que je me regarde le match, mais. Mais ouais, on a l'impression qu'on a le match en main, qu'on peut le gagner. Et sur les 15 dernières minutes, on craque deux fois et ça fait tourner le match.
L'une des explications, Nicolas, ça tient peut-être en deux mots, en un nom, Madosh Tambwe, l'ailier congolais qui marque un doublé. Pourtant, vu sa saison, c'est presque une surprise de le retrouver à ce niveau-là.
Et oui, parce qu'on avait presque oublié qu'en début de saison, Madosh Tambwe était le phénomène du top 14. À peine arrivé en Gironde, il signe un match XXL, un doublé contre le Stade Toulousain lors de la première journée, 6 essais inscrits en 9 matchs lors de la phase aller. Laurent Marty a trouvé la perle rare, c'est ce qu'on s'est tous dit. Des essais spectaculaires, une pointe de vitesse impressionnante, un joueur racé, un game changer, comme on dit, qui peut vous faire gagner des titres. Tambwe, son problème, c'est qu'il a fait toute sa carrière en Afrique du Sud et qu'il a découvert l'hiver. Les joues du top 14 si particulières pendant cette période où le jeu sur grand espace laisse la place au combat, à la discipline, à la rigueur tactique. La perle a clairement perdu de son éclat. Depuis le 1er janvier, seulement 4 titularisations. Il n'est même plus sollicité dans les matchs qui comptent. La confiance s'étiole. Le staff et les leaders multiplient les échanges avec leur ailier qui est venu seul à Bordeaux. Il souffre de la situation. Contre Toulon la semaine dernière, ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas porté le maillot. Son essai à Mayol sur un exploit personnel nous a fait frémir. On s'est dit vraiment que là, Tambwe était peut-être de retour. Et hier, il assomme, il élimine le Loup sur deux prises d'intervalle. On ne l'avait pas vu de la partie et il a fait la différence sur un ou deux ballons. La Rochelle est prévenue parce que Tambwe, pour le coup, il peut vraiment changer le cours d'un match à lui tout seul.
Julien, ce Madosh Tambwe, qu'est-ce que tu retiens de son match? Son doublé héroïque ou les 78 minutes où en fait il n'existe pas beaucoup?
Ouais, n'oublions pas qu'il sauve quand même l'essai
de Robillard.
Et ce sauvetage-là, il est peut-être même plus important que les essais. Deux essais qu'il marque. Ouais. Oui, parce que s'il ne sauve pas ça, à ce moment-là, il y a combien? 15-8 à la mi-temps. Ouais, il bascule à quasiment. Et si Arnold marque l'essai, tu bascules à 24-8 et c'est peut-être plus du tout le même match. Et je trouve que ce sauvetage-là aussi, finalement, il est représentatif de ce que ce joueur représente. Mais oui, clairement, ils ont un facteur X aujourd'hui sur les phases finales. Comme l'a dit Nico, un game changer, comme on
en anglais. C'est, mais ça m'étonne, vous
n'avez
pas relevé.
Si, bien sûr.
On n'a pas voulu te dire maintenant.
Comment dire en Gironde dans
ça. On dit pareil à Pau, je crois, Julien.
Ils ont un joueur capable, sur un exploit, de te faire changer le cours d'une partie. Et évidemment, ça rajoute de la pression sur l'équipe adverse qu'ils affrontent. Et clairement, c'est un joueur racé, qui est capable d'exploits et qui va évidemment avoir son mot à dire la semaine prochaine du côté de Saint-Sébastien.
S'il fait beau à Saint-Sébastien, parce que c'est un joueur, on l'a compris avec Nicolas, c'est un joueur de soleil. Hein. Dès qu'il pleut, dès que c'est de la boue, il va un petit peu moins quand même. C'est pas le seul joueur qui revient au top au meilleur moment. La charnière Lucu Jalibert a largement pris le dessus sur le duo composé de Kouyou Sopoaga. Julien, est-ce que tu es encore surpris par ces deux garçons, Lucu Jalibert?
Non, pas surpris, mais c'est vrai que on les a pas. beaucoup vu associer cette saison ensemble finalement, parce que Jalibert, il a été énormément absent. D'ailleurs, je pense que tout le monde a eu peur au début de match quand il se plaint qu'il y ait de nouveau une blessure ou une rechute pour Jalibert. Mais clairement, c'est la charnière de complément de l'équipe de France. Donc, c'est une charnière qui est capable de sortir des grands matchs, de gérer des parties, le pied de Lucu, les initiatives de Jalibert. Ça met une pression constante sur son adversaire. Et là aussi, eux, sur les grands matchs, ils se révèlent et ils sont capables de sortir des grosses parties. Et clairement, aujourd'hui, pour des phases finales, tu as une charnière qui tient plus que la route, t'as un ailier capable, même deux, parce que si on pourrait ajouter Biel Biarré de l'autre côté, ils ont deux ailiers capables d'exploits, ils ont un paquet d'avant, même si c'est vrai que sur la première mi-temps hier, on les a pas trop vu, mais qui peut tenir la route. Moi je trouve, on en parle pas beaucoup aussi, mais moi pour avoir connu Caleb Timou à Montpellier quand il est arrivé à Bordeaux, j'ai cru qu'ils avaient recruté son frère, voire son cousin très éloigné, mais là lui aussi remonte en puissance.
Mais il était au placard tout début de saison, il jouait pas.
Faut dire que c'était son cousin qui était là, donc c'est normal qu'il était au placard. Mais et là oui, Jalibert, Lucu, ça change la physionomie, ça change l'image de cette équipe-là, et c'est des joueurs de niveau internationaux, et voilà. Et clairement, hier, on va pas dire que c'est eux qui gagnent le match, mais ils en sont pour une grande partie responsables.
Moi, Lucu, là où je le trouve monstrueux dans son évolution, c'est dans le leadership. Il est arrivé à Bordeaux, Christophe Nurios et Christophe Nurios n'en voulait pas, c'est un joueur qui a toujours dû prouver, qui a jamais été incontestable dans tous les clubs dans lesquels il est passé, même à Biarritz. Et en fait, là, c'est devenu un vrai taulier. Depuis qu'il a été sélectionné avec l'équipe de France il y a un an et demi, franchement, il est en train de franchir un cap dans tout ce qui est préparation de match. Là, il a eu énormément d'impact depuis le départ d'Urios, dans la préparation des matchs, dans tout ce qui est préparation tactique des parties, et ça se ressent. Et hier, franchement, c'est le patron. C'est vraiment le patron.
Qu'est-ce qui amène qu'il est capitaine hier, d'ailleurs?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On s'attendait tous à ce que ce soit Mamadou Diaby. Je pense que c'est pour la stratégie. Vraiment, il a fait une énorme semaine, ce qu'on nous a dit. Il s'est vraiment impliqué dans tout ce qui est plan de jeu et tout ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'hier, on lui a laissé le brassard de capitaine. Je vais essayer de me renseigner dans la semaine, mais c'est vrai que c'était assez surprenant. Et c'est un des vrais signaux forts de cette fin de saison. C'est que c'est lui qui est en train de prendre ce groupe en main. Et tu le sens dans toutes ses déclarations à chaque fois qu'il parle. Ce gars-là, il représente vraiment l'âme du club bordelais qui a une saison difficile, qui a une saison où tu te bagarres, où à chaque fois tu tombes, t'arrives à te relever. C'est complètement la carrière de Lucu, et ça lui va comme un gant.
Justement, Léo, Maxime,
avec
Lucu,
tout le respect, même... tout le respect que j'ai pour Diaby, je pense aussi quand tu discutes avec l'arbitre que t'es Maxime Lucu, international français, numéro 2 derrière Antoine Dupont, ça a peut-être aussi plus de poids dans le discours que
je
tu
sais
peux
pas
tenir
si c'est
avec
ça,
les
mais ce qui est sûr, c'est que Maxime Lucu était aussi particulièrement motivé à l'idée d'aller disputer des demi-finales à Saint-Sébastien. Il est à 30 minutes de voiture. On l'a entendu au micro de Canal Plus à la fin, il y a une vraie émotion chez lui à l'idée d'aller disputer un match à Anoeta, fan du Biarritz Olympique quand il était gosse. Tout ça, ça peut aussi peser dans l'appréhension d'un match et dans le surplus d'âme, la petite motivation qui va faire que il est meilleur joueur et meilleur capitaine que d'autres. Justement, Léo, j'ai l'impression que Lucu, c'est un gars spécial. À chaque fois qu'il y a un défi qui se présente, plus il est haut et plus il va réussir à augmenter son niveau. Est-ce que c'est
tu le partages aussi? Moi, on croit qu'il va y arriver, puis il le fait. C'est étonnant, parce que c'est un bon joueur de Pro D2, c'est même un très bon joueur de Pro D2, mais quand il arrive à Bordeaux, on n'a pas la sensation qu'ils ont recruté George Gregan, quand même.
Puis il vient en tant que 10, en plus, à Biarritz. Il était plutôt ouvreur que demi-mêlée.
Ouais, et il se met au niveau, puis il se met très bien au niveau, puis il arrive en équipe de France, on se dit tous, c'est un joueur de complément, et puis il s'installe. Aujourd'hui, c'est clairement le patron. Mais il a énorme force, effectivement, il a ce côté défi, on l'a vu d'ailleurs, il y a des actions où, je sais pas si vous vous souvenez, en tout début de match, on voit Kouyou qui explose de rage, et juste en suivant, il y a une action positive pour les Bordelais, c'est Lucu qui explose encore plus fort. Il y a un côté où il y a une rage de vaincre en lui qui est assez étonnante. Et l'autre point, le concernant, parce que, On met pas souvent en avant ça. Bordeaux, je crois que c'est l'équipe qui joue statistiquement le plus au pied du top 6. Ouais, qui joue énormément au pied. Et hier, on parlait de comment on arrive à ce scénario-là. Je trouve que dans la gestion des temps de jeu au pied, d'échange de jeu au pied, il a été très très fort. Lui, Jalibert aussi, d'ailleurs, en première mi-temps, je sais pas si vous souvenez.
Les chips par-dessus, les jeux.
Ouais, il a deux diagonales en deuxième mi-temps. Ouais, bien sûr. Il a deux diagonales où les Lyonnais reviennent bien et il pose deux diagonales où il les renvoie dans leur camp et il leur fait très mal à ce moment-là. Il a une vision très 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 précise du jeu, de la lecture de ce qui se passe en face de lui, et il est capable de soulager vraiment toute une équipe, et ça aussi ça forge un leader. C'est quand un homme tout seul arrive à faire du bien et à faire respirer tout le monde, il s'impose d'un seul coup naturellement, quoi. Et lui, il a ça effectivement.
Et puis c'est un mec adorable, juste pour terminer sur lui, mais quand tu discutes avec lui, là il va peut-être faire la Coupe du Monde, on lui souhaite en tout cas, il y a quatre ans, moi j'étais avec mes copains dans des bars en train de mater la Coupe
dans
du Monde.
Bars.
Non mais voilà, il te dit, c'est vraiment un mec super attachant, humble. Dès qu'il peut, il rentre dans sa famille, il vient voir son frère qui a arrêté avec le BO, Shimon, exactement. Donc voilà, c'est vraiment un gars qui vient un peu nulle part. Même lui, il le ressent, mais par contre, il a bossé comme un dingue. Et à chaque fois, il a su gravir les étapes. Ouais. Et franchement,
il a gravi les cheveux longs, tu penses?
Ouais, non, ça pas encore. Ça lui reste un peu de boulot. Je sais pas s'il y arrivera, ça, Maxime.
Reste une question désormais pour cet UBB-là, celui de Maxime Lucu, de Mathieu Jalibert, de Caleb Timou, on en a parlé. C'est ce qu'ils ont les moyens de rivaliser avec La Rochelle. Le bilan, il est un petit peu inquiétant quand même pour Bordeaux parce qu'il reste sur 5 défaites en 6 matchs, notamment en mars dernier où les Maritimes sont venus gifler Bordeaux 36-6 à Chabans. Pourtant, à écouter les Bordelais, il ne faut pas faire de complexe. C'est en tout cas l'avis de Jean-Baptiste Dubié et de Mohamed Diaby.
Là, on prend meilleure équipe d'Europe, peut-être même du monde. On n'a rien à perdre. Cette saison, on est allé gagner chez eux sur un match. Il n'y a rien à dire, quoi. Il faudra qu'on se serve de ça aussi. Et là, il faut tout donner. On ne nous attend pas, on n'a rien à perdre.
Bon, La Rochelle, on connaît. Hein. Grosse équipe, gros mental. C'est une équipe de haut niveau. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, on va jouer notre carte à fond. Et si c'est écrit... Ben, ça le fera.
Léo, est-ce que Bordeaux a une chance?
Alors déjà, j'ai toujours des problèmes avec ces questions. S'ils n'avaient pas de chance, ils n'iraient pas à Saint-Sébastien.
D'accord.
Ils
Léo,
pas le bus,
Léo, est-ce que Bordeaux
sur la dune du Pilat?
Est-ce que Bordeaux a une chance de gagner ce match face à
Léo,
La Rochelle?
Léo, il a décidé de flinguer le podcast. Voilà.
Je repose la question. Léo, Bordeaux a-t-il une chance? Je veux dire sportivement, est-ce qu'ils peuvent rivaliser pendant 80 minutes avec une équipe qui, sur le papier, leur est supérieure?
Ils ne sont pas favoris, mais ils ont une chance, oui, bien sûr.
Même question. Nicolas, est-ce que Bordeaux a une chance?
Alors, oui, je pense vraiment. Pourquoi?
Merci Nicolas.
Parce que,
merci Nicolas de répondre honnêtement à une question simple et pas de flinguer le podcast comme ton ami Léo.
Non, mais alors le Stade Rochelais est nettement supérieur. Quand on voit comment Lyon a dominé physiquement Bordeaux hier en première mi-temps, La Rochelle, ça sera deux fois plus épais que Lyon et on peut être inquiet pour Bordeaux. Par contre, là où je pense que Bordeaux peut un peu rivaliser, c'est, tu le disais, la dernière gifle à Chabans, ce 36-6 devant un Matmut et 42 000 personnes. Je pense que celle-là, elle a vraiment laissé des traces. Et au niveau de l'orgueil et tout ça, on a dit que ces Bordelais-là, à chaque fois qu'ils avaient vécu un coup dur cette saison, ils ont réussi à relever le niveau derrière et à s'en sortir. Donc je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais en tout cas, je pense que dans le comportement, dans l'attitude, ils ont beaucoup appris de cette défaite-là. Et puis, il y a quand même une donnée qui change tout par rapport au dernier 36-6 à Chabans. On en parlait, c'est le retour de la charnière. Quasiment à 100%, même si Jalibert, on peut se dire qu'il est encore en manque de rythme, mais ça commence vraiment à bien revenir. Et avec un Jalibert en 10 qui est capable de débloquer des situations, avec Tamboué derrière, avec un joueur dont on parle peu, Louis Bielbiaré, qui est vraiment en train de s'imposer comme une valeur très sûre, qui est capable lui aussi, sur des éclairs de génie, de franchir une défense à tout moment. Franchement, ça peut peut-être le faire. Le problème de Bordeaux, ça va être rivaliser devant. Si devant, ton pack arrive à tenir 50-60 minutes et que tu as des ballons, ouais, peut-être que tu peux les embêter.
Julien, même question. Est-ce que l'orgueil, est-ce que la folie derrière, ça peut suffire pour l'UBB?
Zéro chance.
Merci Julien.
Pour moi, zéro chance. Je vois pas. Nico, il a dit en plus, si jamais ils arrivent à les tenir devant, comment tu veux tenir le parquet d'avant des Rochelais? Faut pas jouer depuis un mois.
Que ça va ressortir, ça.
Pour moi, je pense que les demi-finales à Nice l'année dernière, il y avait du suspense aux deux demi-finales, il y avait des incertitudes. Autant là, je trouve que les deux demi-finales à Anoeta, pour moi, on en parlera après, mais je vois pas comment le Racing va aller titiller le Stade Toulousain et je vois pas comment Bordeaux peut aller chatouiller les Rochelais. Alors ouais, évidemment, comme dit Léo, ils ont une chance, évidemment.
Léo, il a un journal à vendre, hein, tu sais, il va pas commencer à dire que c'est plié.
Regarde ce qui s'est passé au Stade Français. T'es pas à l'abri que Botia, à la troisième minute, tu mettes une cravate et
Manchette
que tu joues
Moldave,
à 14 pendant 75 minutes, ou que Skelton est sur un déblayage et ils mettent la tête là où il faut pas. Donc
ou d'avoir
évidemment,
un buteur qui passe à travers, ou d'avoir
Ils ont toujours pas Yaya West qui est revenu. Donc normalement, les buteurs ils tiennent la route à La Rochelle maintenant.
C'est bien ce que tu fais, Julien.
non, c'est pas bien. Non, mais je veux dire, honnêtement, comme tu dis, sur le papier aujourd'hui, je vois pas un secteur de jeu où les Rochelais ou les Bordelais peuvent rivaliser avec les Bordelais. Philippe Saint-André m'avait dit l'année dernière, quand je fais les feuilles de match, je fais la comparaison et je choisis quel joueur. Et contre Castres, je savais qu'on allait gagner parce que j'avais mis plus de Montpellierains que de Castrés sur la finale. Ben, j'ai l'impression que là, si tu prends les deux 15 de départ, tu mets plus de Rochelais que de Bordelais sur la feuille de match. Et donc, logiquement, les Rochelais vont passer cet obstacle sans trop de difficultés ou avec quelques petites difficultés. Alors,
il n'y a que Léo, qui nous vend du suspense. Non, Nicolas aussi un petit peu, c'est vrai, pardon.
Moi, je pense quand même que La Rochelle va gagner. Pour La Rochelle. Maintenant, tu nous as demandé si Bordeaux avait une chance. Je t'ai donné quelques clés pour renverser le match. Mais bon.
Non, mais écoutez, je ne suis pas Christophe Cessieux, je pose des questions pourries, vous n'allez pas les souligner à chaque fois non plus. Oh. Autre équipe qui fait figure d'outsider pour ces demi-finales, c'est le Racing, parce que face au Stade français à 15 contre 14, la victoire était un brin poussive, on l'a entendu tout à l'heure dans la production de Kevin Pogam. À la 70e minute, le Stade français était encore dans le coup. La première question, elle est toute simple. Est-ce que vous avez pris du plaisir dans ce match? Moi, je ne vous cache pas que moi, pas trop, par exemple.
Ouais, non, c'était pas dingue.
Si, t'as le scénario qui est fun, mais voilà, une fois que t'as dit ça, en termes de rugby, t'as pas vu grand-chose quand même.
Ah, non. T'as la remontée du Stade français en première mi-temps quand même.
Voilà.
On a vu pas mal des belles mêlées aussi.
Non, mais le problème, c'est que c'est deux équipes qui nous ont pas beaucoup régalé dans le rugby. Après, moi, je trouve que ces barrages, ils sont assez. Ça résume assez les saisons. Je trouve que le Stade français, cette saison, ils nous ont pas fait rêver rugbystiquement parlant. Alors, oui, ils ont une grosse mêlée, mais derrière, comme dit souvent Vincent Moscato, ils se jettent le ballon au-dessus de la tête quand même. Et c'est vrai que c'est quand même pas extraordinaire ce que le Stade français peut nous proposer en termes de rugby. Et le Racing, excepté les éclairs de génie de Finn Russell, malgré cette ligne de trois quarts exceptionnelle, le Racing non plus en termes de jeu déployé, c'est pas transcendant quoi. Donc je trouve que c'était un match de barrage bien tristouné.
Je suis un peu méchant, mais est-ce que c'est normal de retrouver ce Racing là dans le dernier carré? Je veux dire, ils ont du matériel, ils ont des ambitions et ils ont un effectif solide, mais ils montrent quand même presque rien depuis 4 mois.
Mais le problème, c'est qui a été bien meilleur qu'eux dans les autres clubs?
Meilleur, je sais
Toulon,
pas, mais.
Mais après Montpellier, Clermont, Castres, ça a été meilleur que le Racing.
L'USAP.
Ouais, mais c'est. Non, mais c'est vrai que sur la phase retour, l'USAP a déployé plus de jeux que le Racing. C'est terrible de dire comme ça, mais.
C'est vrai qu'on a eu un top 14 avec deux locomotives qui ont quand même vraiment écrasé tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est en train de dire que pour les demi-finales, on n'imagine pas qu'il y ait de surprise. Mais que derrière, dès la troisième place, il y avait quand même un vrai, vrai écart et c'était un niveau pas très élevé, quoi.
Nouveau tour de table des
courageux. La preuve, c'est que regarde, les Lyonnais, ils se sont retrouvés troisième alors qu'ils étaient sixième la dernière journée par un bonus arraché de nulle part, tu vois là.
Contre Bayonne, c'est promu.
Exactement, c'est des équipes qui sont un peu toutes proches et c'est vrai que avec beaucoup d'inconstances et que comme dit Léo, il y a deux locomotives devant et qui ont tiré le championnat et qui semblent aujourd'hui clairement un cran au-dessus de toute la concurrence.
Nouveau tour de table des courageux les amis. Ouais. Pour vous, est-ce que ce Racing là peut
titiller
Toulouse? Attention, c'est précis.
Ça a changé.
J'ai bien compris que ma question d'avant était pourrie, j'ai changé la question d'après, c'est l'adaptation.
La question d'avant, c'était le verbe, c'était le peut, tu remets le peut. Donc oui, ils peuvent.
D'accord. Va-t-il titiller Toulouse? OK, très bien. On sent qu'il est littéraire de la bande. Va-t-il titiller Toulouse, le Racing? Va-t-il titiller Toulouse?
Voilà.
Ça te va, Léo?
Non, du coup, non.
Voilà, au moins, voilà. Là, attends, c'est un mot qui te change de la façon dont tu appréhendes le match.
Ça change tout. Ça change tout. Le peu, peu et le va.
Ok. Ok, très bien. Les deux autres, moins littéraires.
Vous me réinviterez quand même ou pas?
Pas sûr. Tant que t'es gratuit, ça va.
J'imagine que Julien va dire non. Ouais, je vais dire non aussi, même si attention, le Racing a quand même, on en parlait, mais il y a des individualités de partout et que si tu sais
pas d'individualité.
Si,
il va nous revendre le suspense.
Bien sûr, mais encore une fois, dans un scénario un peu dingue où Toulouse, je sais pas, se prend un peu les pieds dans le tapis pendant 20 minutes. Clac, t'as tout qui se met en place du côté du Racing. Je sais pas, j'en sais rien. Non, je dis non, mais bon.
Julien?
Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, zéro chance.
Zéro
pour
chance.
Moi aussi.
Sauf fait de match, évidemment, parce que.
Sauf fait de match.
On connaît nos amis sur les réseaux sociaux.
Ils ont été étriés le Racing en plein doublon avec l'équipe B et demi du Stade Toulousain à l'Arena. Donc, il y a quand même. Léo disait, j'avais dit une classe, Léo avait dit deux. Il y en a peut-être trois même entre deux équipes. Non, mais évidemment, je répète, sauf scénario de match, t'es pas à l'abri d'une surprise. Là, pour le coup, un buteur un peu défaillant. Même si c'est vrai que Thomas Ramos nous a beaucoup habitués aussi cette saison à être défaillant. Non, mais en plus, pour le coup, dans ces deux équipes-là, entre Astoy et Ramos, t'as des buteurs plus que fiables sur la saison. Voilà, pour moi, il n'y a pas... J'avais dit l'année dernière, je trouvais qu'il y avait de l'incertitude sur les matchs, parce que c'était vraiment... Il y avait la possibilité qu'il y ait des surprises. Là, cette année, je ne vois pas où c'est qu'il peut y avoir une surprise, à part, voilà, évidemment, un fait de match, un carton rouge...
Et t'as cité Boccia...
Un CMO qui ne marche pas, ouais. J'en sais rien.
T'as cité Boccia, ça a fait mal à mon cœur, sache-le, parce que Levan Boccia est un de mes joueurs préférés. Voilà, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs.
C'est vrai qu'il n'a pas pris souvent des cartons rouges en finale.
Tu aurais pu citer Skelton, par exemple, qui lui aussi...
Je l'ai dit aussi, je te rappelle, j'ai cité Boccia et Skelton.
Comme par hasard, comme par hasard.
C'est bizarre, pourquoi ces
deux-là? Vous les critiquez, mais je les prends dans mon club, quand même, les deux.
Mais on les critique pas. Mais il est fou, celui-ci. Déjà, il me reprend sur les questions, maintenant il me reprend sur les idées. Mais c'est un maboule, remettez-moi ma cigare. Non, mais c'est pas vrai. Écoutez les joueurs, en tout cas.
C'est Léo qui présente.
Il vient quand il veut prendre des cartons rouges dans mon club.
Il me fracasse le fil conducteur et en plus il bombe le torse. Bon, écoutez les joueurs, on sent quand même que le défi côté Racing est énorme.
Bah, honnêtement, ils sont ultra favoris, hein, sans faire de langue de bois. C'est une équipe très forte, très puissante, très complète. Ils jouent très bien au rugby. Les conditions seront sûrement bonnes en Espagne. Donc, forcément, ça attend un très bon match face à ce qui se fait de mieux au niveau européen, voire mondial. Donc voilà, nous on n'a rien à perdre, on va y aller, on va se préparer au maximum, on va essayer de faire un coup de poker et puis voilà quoi. Et après voilà, on a d'excellents joueurs aussi et je pense qu'on peut rivaliser.
Bon, ça pue pas la confiance trop quand
même. En même temps, il va pas dire
on va leur casser la bouche. Dessus, hein, ouais. Oui, mais là on sent quand même que dans la façon dont, enfin là, Léo qui est très attaché à la rhétorique aura noté quand même que ça sent pas non plus le gars qui va tout casser quoi. Voilà, on sent qu'il y a une...
Ça transpire pas, il semble y aller un petit peu en victime quand même.
Un petit peu. Dernier
le gros problème pour le gros problème pour le Racing, c'est qu'ils vont affronter un Stade Toulousain en plus qui a fait du jus depuis un mois et demi. Ils vont jouer le match contre le Leinster et depuis le Leinster, donc c'est-à-dire fin avril, ils ont assuré leur qualification contre Brive à domicile en leur
dans
en 50
boucherie.
Dans une boucherie et depuis, ils ont été en stage et ils ont mis tout le monde au frigo et là ils vont les sortir genre alors voilà, peut-être que la chance du Racing c'est que le manque de rythme, tu vois, sur les 20 premières minutes, te puisse prendre un peu le score et les faire douter. Mais je suis même pas sûr que ça non plus ça fonctionne.
Non. De ce que j'en sais, en plus, les Toulousains, ils ont pas trop apprécié d'être éliminés de Coupe d'Europe, c'est évident.
Ouais.
Mais ils ont pas énormément apprécié non plus que ça soit les Rochelais qui le soient. Et puis, beaucoup de lumière sur les Rochelais. Et que, c'est quand même des gens qui aiment bien être numéro 1. Et voilà, ils l'ont mis dans un coin de la tête quand même qu'il y avait un trône à reprendre.
Dernier son à vous faire écouter les potos, c'est celui de Gonzalo Quesada, l'un des vaincus, très ému à l'issue du match. C'était son dernier d'ailleurs avec le Stade français. Et au micro de Canal+, il s'est un petit peu lâché.
Quand je suis revenu, on me disait pourquoi tu reviens, c'était trop dur de revenir. L'équipe dernière, tout, j'avoue, j'ai mis ma vie, mon cœur pour tout. On a fait plein de conneries, je me suis trompé 20 fois, j'étais pas bon. Mais j'avoue qu'au bout de 4 matchs, quand tu apprends tout ce qui se passe derrière toi, que tu es en train de préparer la saison prochaine avec des gens qui travaillent avec toi et que tu apprends ça comme ça, c'est la vie d'entraîneur. Mais j'avais tout fait pour être traité différemment. J'avais vraiment tout fait pour être... Et après, je m'en fous totalement. Je pars en paix. Je sais que ce Stade français est meilleur que celui que j'ai retrouvé dans tous les niveaux. Mais je suis fier d'avoir fini la saison.
Léo, est-ce que le Stade français a été injuste avec Gonzalo Quesada?
C'est la vie, c'est... Ouais, non. Oui, forcément que le scénario, il est un petit peu dur parce que ça s'écrit dès le début de saison, sauf que le timing aujourd'hui des transferts, il se fait comme ça, y compris sur le marché des entraîneurs. Donc c'est dur et je peux l'entendre humainement que ça soit un peu dur. Après 4 matchs où t'as ni échoué ni réussi encore, t'as encore tout à faire. Après il le découvre pas ce milieu-là, Gonzalo Quesada, c'est pareil avec les joueurs et des fois il a certainement pris des décisions que les joueurs ont trouvées injustes. Voilà, cette fois-là c'est contre lui. Non, le Stade français a réagi avec les règles du rugby professionnel actuel qui sont pas toujours jolies, mais c'est celle-là et c'est celle qu'il utilise aussi.
Julien, on en a parlé avant l'émission, tu trouves toi aussi qu'il y a des circonstances qui permettent d'expliquer le choix du Stade français?
Ouais, je partage l'avis de Léo. C'est malheureusement la tendance actuelle que prend le rugby, où tu signes des joueurs un an à l'avance, tu regardes quand est-ce que leur contrat expire. Regarde Damien Penaud, il a arrêté 18 mois après et tout le monde était en train de vouloir le recruter pour la saison 2024. Idem pour Urios. Et là, le Stade français a eu l'opportunité de faire le duo Labitte-Guezal en début de saison. Et ben, tu veux blinder évidemment vite un staff pour la saison prochaine. Et je trouve, comme dit Léo, Gonzalo Quesada, il a bon dos, mais je pense qu'il a aussi dit à des joueurs en début de saison qui comptaient pas sur eux pour la saison prochaine et qu'il allait pas les faire prolonger. Alors après, qu'on accepte ou pas, voilà, je trouve que malheureusement c'est la tendance que prend le rugby. Tu peux plus rien cacher, je pense que ça s'est fait longtemps dans l'ombre, mais qu'aujourd'hui c'est tellement médiatique les transferts, qu'il faut tellement faire la course à l'info et le premier qui va le sortir, que bah, tu peux plus cacher les choses. Et que c'est
donc
malheureusement
tout ça c'est la faute de Léo Faure, de non, Wilfried Templier, c'est pas du tout la faute du rugby quoi.
Bah, c'est la tendance comme fait le foot aujourd'hui. Alors après, la chance du rugby, c'est qu'il y a encore des contrats et que t'achètes pas encore des contrats, même si ça commence aussi à rentrer ça aussi. Mm-hmm. On commence à acheter des contrats pour les terminer plus tôt. Je trouve que c'est malheureusement la tendance et que Gonzalo Quesada, pour le coup, bah, il savait au mois de septembre qu'il allait s'arrêter. Et je trouve ça, moi, pour le coup, très noble qu'il ait fini sa saison, qu'il qualifie le Stade français et que pour son CV, malgré tous les embûches qu'on a pu lui mettre, tu te dis, bah, t'as un entraîneur compétent et je trouve que ça facilite pour lui, en tout cas, retrouver un club dans l'avenir parce que malgré toutes les embûches qu'il a pu avoir, il qualifie le Stade français et ça faisait longtemps que le Stade français n'était pas qualifié pour les phases finales.
Nicolas, je l'ai dit en introduction, en moins d'un an, il y a 9 staffs du top 14 qui ont ou vont changer. Toi, tu as connu ça à Bordeaux avec 3 changements en moins de 6 mois. Comment on gère ça? Est-ce que les joueurs, ils ont une responsabilité dans le changement des entraîneurs? Comment on s'adapte? Comment on travaille? Toi qui es au quotidien avec les Bordelais, tu en sais un peu plus?
Bah, c'est difficile. Déjà, un changement de coach, ça change plein de choses. Ça rebat toutes les cartes sur la table. Quand t'es au frigo, tu sais que t'as ta chance. Quand t'es un joueur indéboulonnable, tu sais que tu vas devoir te battre à nouveau pour prouver un nouveau staff. Alors, à Bordeaux, c'était un peu différent parce que, quand Christophe Furios est parti, c'est Julien Laïrle et Christophe Charrier, c'est ses adjoints qui ont continué. Bah, un peu comme Quesada, ils savaient qu'en fin de saison, ils allaient partir, mais ils sont allés au bout de leur contrat. Du coup, les méthodes d'entraînement n'ont pas beaucoup changé, mais je pense que ce qu'on voit en tout cas à travers ces deux clubs, le Stade français et l'UBB, c'est surtout les joueurs qui au bout d'un moment ont voulu écrire leur histoire. Tout le monde parle dès qu'il y a un coach qui part maintenant en septembre, en novembre, on l'a fait avec le Stade français, on l'a fait avec l'UBB, la saison de transition, la saison blanche, mais non, maintenant c'est comme ça, comme l'ont dit Julien et Léo, dans le rugby ça se passe comme ça, et les joueurs ils vont pas se griller 6 mois, 7 mois, 8 mois dans une carrière, donc ils prennent les choses en main, donc ça permet à des joueurs d'éclore au niveau de la responsabilité. On parlait de Maxime Lucu, il y en a plein d'autres à l'UBB qui ont vraiment pris un rôle différent que celui de simples joueurs. Donc voilà, après, c'est sûr que les joueurs, dans le cas de Christophe Furios, on sait que ça se passait mal avec certains cadres et que c'est certainement pour ça que la tête d'Urios a été coupée, parce qu'on avait aussi la possibilité de faire signer Yannick Bru pour préparer la saison prochaine. Donc voilà, bien sûr que les joueurs ont une responsabilité dans les changements d'entraîneur, mais j'ai l'impression que quand les clubs changent de staff tôt dans la saison, ça n'impacte pas forcément les résultats de ces clubs, en tout cas pour l'instant.
Ouais, moi j'ai beaucoup de mal.
T'as compté Xavier Garbajosa dans tes 9 staffs qui vont changer?
Alors non, parce que c'est pas officiel évidemment, mais un 10e pourrait évidemment connaître quelques modifications.
On lui souhaite pas,
mais disons que quand les joueurs vont dans le bureau du président pour réclamer la tête de l'entraîneur et que le club est malheureusement éliminé de la course au bouclier, les chances de voir Xavier Garbajosa sur le banc l'année prochaine s'amenuisent. Bon, en tout cas, on se fera pas trop de soucis pour Gonzalo Quesada, qui a déjà des touches avec certains clubs et même certaines sélections. Mais je suis quand même curieux de savoir ce que ça va donner le Stade français en Argentin. On le rappelle,
c'est l'intérêt de la chose aussi, vu que ça bouge partout. Ben Gonzalo Quesada, peut-être qu'il finira à Lyon.
On ne sait pas. En tout cas, on le souhaite pas à Xavier Garbajosa. Gonzalo Quesada. Tu veux qu'on se fasse des ennemis? Non, mais franchement, Léo, tu fais un très mauvais podcast.
C'est la dernière fois, Léo.
Un très, très mauvais podcast. Bon, on le rappelle évidemment, Toulouse Racing, vendredi soir, 21h sur RMC. La Rochelle-Bordeaux, samedi, 17h sur RMC. Le tout à Saint-Sébastien. Messieurs, on va pas jouer au traditionnel jeu des pronostics. Vous les avez déjà donnés. On a bien compris que tout le monde voyait tantôt La Rochelle, tantôt Toulouse. Juste avant de refermer les écouteurs, un mot très rapide, messieurs, de Perpignan qui reste en top 14. Le match d'accession qui a un grand succès en termes d'émotion. Julien, Patrick Arletas va raccrocher. Après avoir laissé le top 14, l'USAP en top 14, il arrête. Tu connais bien le coach catalan. Est-ce que tu en sais un petit peu plus sur son avenir?
Et lui-même a été surpris d'être contacté par Fabien Galthié pour rejoindre peut-être l'équipe de France en tant qu'entraîneur en charge du jeu offensif de l'équipe de France. Lui souhaitait clairement s'arrêter pour une pause, parce qu'il a fait 7 ans consécutifs du côté de l'USAP, que c'est évidemment très usant comme boulot, tout particulièrement à Perpignan, parce qu'il y a des clubs où évidemment la passion est très forte, et que Patrick Arletas a souvent répété: j'étais supporter de l'USAP depuis que je suis petit, j'ai appris à marcher avec mes girafes, mental. Voilà, pour lui, c'est un club qui lui tient plus qu'à cœur et que, évidemment, c'est très lourd de responsabilité et d'engagement. Et donc, il souhaitait clairement s'arrêter. Mais évidemment, ben, quand l'équipe de France vient te demander si ça t'intéresse de prendre le jeu de l'équipe de France, ben, tu te poses la question. Et je pense que, clairement, il fait partie aujourd'hui des deux ou trois potentiels qui vont succéder à Laurent Labitte. Et après, juste un mot sur l'USAP, c'est clairement mérité sur la saison, en tout cas la phase retour de l'USAP. Et je trouve qu'aujourd'hui, le fossé entre le top 14 et la Pro D2 s'agrandit. Et qu'au départ, ce barrage semblait équitable. Et qu'aujourd'hui, ça paraît de plus en plus compromis. Et que l'USAP, en tout cas, mérite de rester en top 14 sur les prestations qu'ils ont pu faire sur leur fin de saison.
Julien, comme t'es mon chouchou, tu gardes la main, forcément. On va parler aussi de la liste de l'équipe de France. On a quelques informations du côté des RMC et surtout quelques noms.
Oui, la liste de Fabien Galthié devrait sortir. La première liste de la Coupe du Monde, c'est le lancement officiel de la Coupe du Monde. On était à 100 jours la semaine dernière. On réduit. Alors, ça dépend quel jour vous allez écouter le podcast.
Merci, donc, Julien.
Pas mouillé sur combien de jours on est dans le podcast.
Alors, c'était J-100 il y a 4 jours par rapport à on n'est pas loin de la Coupe. Voilà. On s'en rapproche.
On n'est pas loin de la Coupe du Monde. Et du coup, Fabien Galthié va annoncer sa première liste avec, dans cette liste des 23, 3 blessés qui vont être présents du côté de Marcoussi. Yacouba Camara, le Montpellierin, Anthony Jelonche et Baptiste Serin. Ils ne devraient pas être trois à aller sur le terrain cette semaine du côté de Marcoussi. On devrait leur présenter le projet de jeu, les grandes lignes de la préparation. Mais impliquer Anthony Jelonche, ce n'est pas une surprise, mais impliquer Baptiste Serin et Yacouba Camara, qu'on n'a pas vu en bleu depuis très longtemps, c'est un signe fort, en tout cas pour ces deux joueurs, que l'équipe de France les suit et qu'ils ont peut-être une carte à jouer, un espoir de se retrouver dans la liste finale pour disputer la Coupe du Monde.
Eh bien, merci les potos. On embrasse forcément Christophe Cessieux, Wilfried Templier, Denis Charvet, qui ont pris de l'avance, qui sont allés tester les tapas en Espagne. Rassurez-vous, ils devraient être de retour la semaine prochaine. J'en profite, on vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger le podcast de référence au Val chaque semaine. C'est pas une façon de parler, hein, c'est vrai. Et on vous le répète
même
à chaque épisode, même quand Léo est là.
Enfin,
on verra les chiffres la semaine prochaine,
parce que vous
en fait.
Pas.
Je veux dire, ça
vous
se trouve, les chiffres seront bousillés la semaine prochaine. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Puis on vous le redit chaque semaine. Vous pouvez vous abonner, en dire du bien, en parler autour de vous, dans les vestiaires, n'importe où. Si vous pensez que c'est génial, vous le dites. Si vous pensez que c'est pas génial, vous le dites pas ou vous mentez. Et puis on vous donne rendez-vous sur l'antenne pour vivre les matchs dès lundi. On vous donne rendez-vous sur l'antenne ce week-end pour vivre les matchs et lundi prochain pour les débriefer. En attendant, bonne semaine à tous sur RMC évidemment.